Chapitre 9e. La comtesse quitte la campagne. Le lendemain, dès 8 heures, les équipages de la comtesse Koumiassine furent amenés devant le perron. C'était d'abord une ancienne berline de voyage à 6 places, complétée par un cabriolet derrière pour 2 femmes de chambre. Les sièges, le dessus, le dessous, le cabriolet lui-même, étaient bourrés de coffres, de tiroirs, de bâches, de sacs supplémentaires, bref, une vraie boîte à surprises qui ne comptait pas moins de 19 numéros. Ensuite venait la dormeuse de la comtesse, plus légère, moins agrémentée de cachettes et d'appendices. 4 calèches suivaient à la queue leu-leu, destinées aux femmes de chambre et aux plus privilégiées d'entre les protégées qui accompagnaient la comtesse à Saint-Pétersbourg. 2 fourgons transportaient les bagages, escortés par des domestiques de confiance. Dès le petit jour, un grand fourgon avait pris l'avance, emportant le maître d'hôtel, le cuisinier en chef, les provisions de bouche, le linge de table et l'argenterie de voyage. La comtesse ne mangeait jamais que dans de l'argenterie et de la porcelaine à ses armes. 3 jours plus tôt, une longue file de chariots avait quitté le domaine de Koumiassine, emportant les provisions destinées à la consommation pendant l'hiver. Poissons et champignons marinés, concombres salés, confitures, fruits séchés, miel et cire, pommes et aires conservées dans de l'eau de kvass, mais rafraîchissant et très apprécié des Russes en hiver. Le linge et les tentures restaient à Koumiassine, où le soin de leur entretien et de leur conservation occupait 6 personnes pendant toute l'année. Le déjeuner fut bref. Tout le monde y parut en costume de voyage et l'air très fatigué. Une demi-heure après, le valet de pied de la comtesse se présenta à la porte de la grande salle et annonça que tout était prêt. La comtesse, qui s'était levée, se rassit et tout le monde fit de même. Autour de la salle, munie de chaises à cette occasion, toutes les personnes présentes, celles qui restaient et celles qui partaient, s'assirent, formant une galerie serrée. « Assieds-toi, » dit la comtesse au valet de pied. Celui-ci obéit. Cette minute de recueillement, qui, selon l'antique usage russe, précède les départs, est la seule où un domestique puisse s'asseoir en présence de ses maîtres. Un grand silence régna dans la salle pleine de monde, puis la comtesse fit le signe de la croix et se leva. Son exemple fut suivi par tous les assistants, et les adieux commencèrent. Tous les gens de service qui restaient, petits et grands, vinrent prendre congé de leur maîtresse d'abord, des voyageurs ensuite. Les sanglots et les lamentations ne manquèrent pas. Beaucoup des anciens serviteurs étaient réellement attachés à la comtesse. Les autres geignaient d'autant plus fort qu'ils étaient plus désireux de montrer leurs ailes, et d'ailleurs l'usage le voulait ainsi. Enfin, la comtesse, jugeant qu'elle avait laissé court assez longtemps à cette louable douleur, se dirigea vers le perron, soutenue sous le coude par son valet de pied. 6 chevaux étaient attelés à chacune des 2 premières voitures, 4 à chacune des autres. Les 3 enfants, escortés du gouverneur et des gouvernantes, se tenaient groupés autour de la comtesse, attendant ses ordres relativement à la disposition des places. Jusqu'au moment de monter en voiture, personne ne savait quel serait le véhicule qui lui serait affecté. « Ma fille vient avec moi, » dit la comtesse d'une voix claire. Zina jeta un regard de douleur à sa cousine, dont elle serra la main bien fort, puis elle vint se ranger près de sa mère. Cette maison était admirablement stylée à l'obéissance passive. « Ces dames, » ajouta la comtesse en désignant du regard sa nièce et les institutrices, « iront dans la grande berline avec M. Bartel et mon fils. La nuit, s'il fait froid, je prendrai mon fils dans la dormeuse. » Sans répondre, les personnes désignées montèrent dans la grande berline qui dansa sur ses longs ressorts 2 bonnes minutes encore après que la portière fut refermée. La comtesse fit ensuite monter sa fille devant elle. Puis, toujours soutenue par son valet de pied nu-tête, elle s'installa dans le somptueux équipage. Une femme de chambre, désignée d'avance, prit place en face de Zina. Une brassée de fourrure couvrit les genoux des 2 nobles voyageuses. « N'a-t-on pas oublié les boules d'eau chaude pour les pieds ?» demanda la comtesse. « Il ne manque rien, Votre Excellence, » répondit le valet de pied qui grimpa à côté du cocher. Pendant ce temps, les autres voitures s'étaient remplies. « Allez, » dit la comtesse, « avec l'aide de Dieu. » Les voitures s'ébranlèrent. La comtesse fit le signe de la croix sur elle-même d'abord, et ensuite par la portière sur la maison qu'elle quittait. La valetaille éplorée se mit à hurler des adieux pathétiques. Les paysans nu-tête, groupés tout le long du village, saluèrent les équipages par de profondes inclinations et des bénédictions larmoyantes. La comtesse, comme une souveraine, saluait à droite et à gauche. Zina, moins solennelle, faisait de temps en temps un petit signe d'adieu à quelques paysannes favorites, à quelques gamins préférés. On dépassa la grande porte du village. Les lamentations et les aboiements des chiens s'éteignirent peu à peu, et les voitures prirent une allure rapide sur la grande route dont le vent avait presque balayé la neige. Des deux côtés, les champs blancs s'étendaient à perte de vue. Un peu en avant, à gauche, la sombre forêt se dessinait, noire et majestueuse, tachetée de blanc par les masses de neige prises dans les branches. Zina poussa un soupir. « Qu'avez-vous ? » lui dit sa mère. « Ah, maman, c'est si bon, la campagne. Cela me fait toujours de la peine de la quitter. En hiver ?» La comtesse haussa les épaules. « Qu'est-ce que votre cousine vous a dit hier ? » ajouta-t-elle au bout d'un moment. Zina réfléchit un peu. « Elle ne m'a rien dit, maman, » répondit-elle. Pour la première fois de sa vie, Zina venait de mentir sciemment. Chapitre 10e. En voyage. Quand la comtesse Koumiassine voyageait, le dîner était une grave affaire. Le cuisinier, parti d'avance pour un lieu indiqué, mettait en révolution toute la station de poste. Mais aussi, jamais en été la comtesse n'avait manqué de glace pour son dessert, ni en hiver de petits pâtés rastigailles à la moelle, qu'elle aimait particulièrement en voyage, on ne sait pourquoi, car elle n'en mangeait presque jamais à la maison. Le dîner s'accomplissait dans les stations de poste de première classe, celles qui ont été désignées dans le tracé pour les temps d'arrêt de la famille impériale en voyage. Les belles pièces, hautes de plafond, bien meublées, quoique le style des meubles rappelle principalement la raideur du Premier Empire, proprement cirés et vernis, toujours chauffés en cas d'arrivée imprévue, et qui ne s'ouvraient pas pour de moindres personnages que la suite de l'empereur, offraient leur asile officiel à la comtesse Koumiassine. La même étiquette qu'à Pétersbourg ou à Koumiassine régnait dans ces dîners majestueux, sauf pourtant un détail, les jeunes filles gardaient leur costume de voyage. Les mêmes personnes se retrouvaient aux mêmes places, les mêmes domestiques servaient les convives de la même façon, seulement l'argenterie et la vaisselle de voyage étaient plus simples, c'était la seule différence. Aussi personne n'avait-il cette joyeuse hâte de se retrouver qui caractérise ordinairement les voyages entrepris en longue caravane. Aussitôt après le dîner, pendant qu'on servait le thé et le café par les soins de la première femme de chambre, le fourgon partit au galop, emportant le courrier, le cuisinier et l'attirail de la cuisine comtale que les gens de service achevaient de remettre en ordre pendant la route. Ne fallait-il pas préparer le souper 15 lieues plus loin, pour une heure fixée d'avance? Pendant que la comtesse s'étendait sur un canapé pour prendre un peu de repos, elle envoya les deux jeunes filles et son fils, accompagnés de leurs gardes du corps, faire une petite promenade hygiénique. Heureuses de se retrouver ensemble, les deux jeunes filles se prirent le bras et coururent en avant. La bonne Mademoiselle Bochet, prenant en pitié leur séparation forcée, entama avec Miss Junior une discussion très animée qui procura à Zina un moment de détente morale dont elle avait grand besoin. « J'ai dit à ma mère que tu ne m'avais rien dit hier soir », fut le premier mot qui sortit de sa bouche. « Elle te l'a donc demandé ?» fit Vasilissa sans la regarder. Zina resta interdite. Certes, sans la croire parfaite, elle aimait sa mère et la respectait. Depuis la veille, cependant, elle était en proie à de cruelles perplexités. Elle n'avait pas été surprise de la conduite de sa mère dans l'affaire du prince charmant. Vaguement, elle devinait que la comtesse avait déjà dû faire des choses semblables sans que sa fille y accordât grande attention, et cette idée la tourmentait fort. Elle s'en faisait un crime. Pourtant, pouvait-elle approuver la combinaison dont sa cousine avait été victime? Jusqu'alors, bien plus que sa mère et que personne au monde, Vasilissa avait été sa conscience, son conseil, son amie, en un mot. Elle se décida à agir franchement, au moins avec elle, sans sonder jusqu'où cette détermination pourrait l'entraîner. « Oui, Lisa, elle me l'a demandé, » répondit-elle à voix basse et en rougissant. « J'ai menti, pour la première fois, » c'est très mal. Il ne faut plus mentir, Zina, dit Vasilissa d'une voix ferme. Garde la confiance et l'affection de ta mère, quant à moi. Eh bien quoi? Est-ce que toi et moi, ce n'est pas la même chose, aujourd'hui comme hier? Dit Zina, presque en colère. Tu as bien vu hier que ce n'est pas la même chose, reprit Lissa de la même voix ferme, mais avec un accent de tristesse. Vois-tu, il faut nous accoutumer à l'idée de nous séparer.
Nous séparer?
Cria Zina, qui bondit sur place et quitta courroucée le bras de sa cousine en la regardant d'un air furieux. Vasilissa reprit le bras de Zina et le passa sous le sien. Elle marchait en ce moment le long des remparts à demi ruinés d'une jolie petite ville très ancienne qui domine un lac d'une forme charmante, semblable en été à une coupe de Sèvres. « Vois-tu ce lac ? » dit Vasilissa. « La dernière fois que nous sommes passés ici, il était bleu, couvert de petites voiles blanches qui avaient l'air de grands oiseaux pêcheurs. Maintenant il est noir d'encre, en attendant que la glace le prenne, et la neige qui l'entoure lui donne un air de deuil. « Tais-toi, tais-toi, tu me fais peur !» murmura la pauvre petite comtesse qui serra le bras de sa cousine. « C'est l'image de ma vie passée comparée à ma vie future, » dit Vasilissa, les yeux pleins de larmes. « Mon printemps est fini. Je suis une pauvre orpheline élevée par charité dans une grande famille. Tu es la riche comtesse Koumiassine. Nos vies n'auront plus rien de commun. »« Rien ne m'empêchera de t'aimer toujours, » dit Zina en embrassant sa cousine avec ardeur.
« Mademoiselle, rentrons !»
cria Mademoiselle Bochet. Les jeunes filles revinrent sur leurs pas. L'horizon de rose devenait gris, présage de grêle. Les premières étoiles brillaient dans le ciel bleu pâle. « Vois le ciel !» dit Zina en pressant le pas. « Hiver ou été, il brille toujours sur le lac, et le printemps revient. Je serai comme ce ciel. Qu'il neige ou qu'il pleuve, je te serai fidèle comme ces étoiles. » Vasilissa lui serra la main sans répondre. Une demi-heure après, les voitures roulaient en faisant craquer la neige sous les roues. La comtesse avait décidé que l'on voyagerait toute la nuit. En conséquence, après le souper qui eut lieu à 10 heures du soir, on se remit en route et chacun s'arrangea pour dormir. Dimitri avait émigré dans la dormeuse de la comtesse. La femme de chambre dont il prenait la place vint le remplacer dans la berline et s'endormit aussitôt. Les deux gouvernantes et M. Wartel, après une conversation décousue de quelques minutes, se laissèrent également aller au sommeil. Lissa ne dormait pas. Son esprit lui retraçait la scène de la veille, et une angoisse poignante étreignait son jeune cœur. Un amer regret dominait tout le reste, et elle se reprochait de ne pouvoir le chasser de sa pensée. Elle regrettait quoi? Le prince? Non. En bonne conscience, elle ne pouvait découvrir en elle-même que de l'amitié pour cette brave et honnête nature. Elle aimait bien le prince, elle l'estimait très haut, mais elle n'avait jamais éprouvé en sa présence ce trouble, cette crainte de ne pas plaire qu'elle devinait vaguement comme les précurseurs ou les compagnons de l'amour. Était-ce alors la grande fortune, le nom illustre, la cour impériale où son rang l'aurait appelé? Vasilissa avait l'âme trop fière pour attacher tant de prix à ses avantages purement extérieurs. Qu'était-ce donc qui lui faisait monter aux yeux ces larmes brûlantes qu'elle dévorait sous son voile? C'était la perte, irréparable, elle le sentait, d'un appui, d'une protection certaine. Il n'aurait pas permis qu'on m'offensât, se disait l'orpheline, le cœur gros et plein de sanglots. Il m'aimait, il m'aimait. Et la pauvre enfant voyait alors passer devant elle le rêve du bonheur perdu avant d'avoir existé, l'époux qui sait protéger et défendre, la maison où tout vous appartient, la domesticité soumise et respectueuse, l'indépendance dans les actes indifférents de la vie. Captive hier encore, elle serait devenue libre tout d'un coup, libre et aimée. Elle avait bien raison de pleurer son beau rêve. La réalité devait se faire pour elle plus rude et plus douloureuse tous les jours. À la fin, le balancement de la berline la plongea dans un demi-sommeil. Pendant quelque temps encore, elle entendit le tintement des colliers de grelots que portent les chevaux de poste. Puis les sifflements des postillons, encourageant leurs bêtes, n'arrivèrent plus à son oreille que comme des bruits lointains. Et enfin, elle s'endormit d'un sommeil réparateur. Il faisait à peine jour lorsque les voitures s'arrêtèrent devant une grande station bâtie en briques, où le thé et le café du matin les attendaient. Comme à la maison seigneuriale, les voyageurs trouvèrent les petits pains chauds et le beurre frais battu. Un four à cuire était aménagé dans le fourgon et le pain avait été fait en route. La comtesse était d'assez mauvaise humeur. Son fils lui avait donné des coups de pied toute la nuit, en rêvant, bien entendu, et son sommeil en avait été singulièrement troublé. Aussi remit-elle Dimitri aux soins de son précepteur avec cette remarque pédagogique. « Vous aurez soin, monsieur Bartel, de surveiller le sommeil de cet enfant. Il est beaucoup trop agité. Vous ferez bien, quand il se remuera trop, de le réveiller et de le gronder. On peut donner de bonnes habitudes au sommeil dès l'enfance, si on sait s'y prendre. » Le précepteur s'inclina avec respect. « Avec ça, pensa-t-il, que je me lèverai la nuit pour réveiller ce gamin, trop heureux qu'il dorme et me laisse tranquille. « Vos ordres seront exécutés, madame la comtesse, » dit-il tout haut. « Je n'attendais que votre autorisation. » Dimitri, furieux, lui tira derrière le dos une langue énorme. La comtesse en aperçut fort bien, mais il n'entrait pas dans ses principes de remarquer les injures qui ne lui étaient pas personnelles, surtout quand elles étaient le fait de son enfant gâté. C'eût été une autre affaire s'il avait trouvé là l'occasion de donner une utile leçon de morale, mais le cas ne se présentait point en cette occurrence. Elle laissa donc le petit garçon s'écarter et se contenta d'ajouter à demi-voix, en s'adressant aux trois pédagogues, « Il faut savoir exiger certaines choses d'une façon absolue, et en passer d'autres jusqu'au moment où, ayant obtenu ce qu'on exigeait, on peut consacrer ses soins à des défauts volontairement passés sous silence. » Les trois auditeurs de ce petit discours s'inclinèrent à la fois. « Zina, continua la comtesse, allez avec ces dames dans la berline, je prends votre cousine avec moi. » Les changements indiqués s'effectuèrent silencieusement et la caravane se remit en route. Chapitre 11e. La comtesse explique à sa nièce ce que c'est que le mariage. Le soleil est élevé, mais encore très bas sur l'horizon. Il envoyait des rayons aigus comme un fer de lance dans les portières de la voiture. La comtesse baissa la glace du côté de sa nièce pour jouir de l'air pur et léger sans trop de danger de s'enrhumer. Puis elle s'installa commodément sous les fourrures, mit les pieds sur la banquette de devant, la femme de chambre s'était casée ailleurs, et se mit à songer au discours dont elle avait l'intention de régaler Vasilissa. Celle-ci, droite comme sur sa chaise à table, attendait, les yeux baissés, ce qui allait lui être communiqué. Quoi que ce pût être, elle était sûre de garder son sang-froid. Combien elle regrettait le cri qui lui était échappé l'avant-veille. Son âme n'était pas d'une forte trempe pour l'action, mais elle possédait la force de résistance au même degré que le marbre le plus dur. « Vous vous êtes bien conduite, ma nièce, » commença la comtesse. Vasilissa, prise au dépourvu par l'éloge, fit un léger mouvement. La suite de la phrase mit un terme à sa surprise. « En ne parlant pas à votre cousine de ce qui s'est passé avant-hier soir, » continua la comtesse. Vasilissa inclina la tête, puis la releva, et continua à regarder son manchon dans lequel ses deux mains nerveuses tourmentaient ses bagues. Il lui semblait bien dur d'être loué précisément pour le premier mensonge de Zina, mais il n'y avait plus moyen de reculer. « Voyez-vous, ma chère enfant, » continua la comtesse, confortablement soutenue de toutes parts par des coussins moelleux. « Ce monde est un monde de misère. Sans doute, vous êtes bien jeune pour y entrer, et j'aurais préféré retarder ce moment. Mais il est venu sans ma participation, et il faut donc vous préparer à la destinée qui vous attend. Le prince Chourov était venu dans l'intention de me demander votre main. Pour ma part, je n'avais pas d'objection à ce mariage. L'éducation que je vous ai donnée... À ces mots, elle sortit de son manchon sa belle main gantée, et par une habitude machinale, sa nièce la baisa comme elle le faisait toujours à cette phrase. La main rentra dans le manchon. « L'éducation que je vous ai donnée, reprit la comtesse, ne déparerait certainement aucun rang de la société. Mais néanmoins, vous n'êtes pas faite pour la haute situation à laquelle le prince avait eu le projet de vous élever. Je ne sais ce qui se sera passé dans son esprit depuis le moment où je vous ai fait appeler, jusqu'à celui où je vous ai retrouvé. Mais ce qui me semble évident, c'est que vous avez choqué de quelque façon le prince qui, naturellement, très fin et très délicat, aura renoncé à ses projets. » Vasilissa se tourna très légèrement, et au lieu de la voir de trois quarts, sa tante la vit de face. Du reste, les yeux baissés de la jeune fille ne s'étaient point levés. Les lèvres seules s'étaient imperceptiblement resserrées et la joue avait un peu pâli. « Puisque nous en sommes là-dessus, » dit la comtesse, qui venait de subir une légère secousse dans sa placidité intérieure, « dites-moi donc ce qui s'est passé entre vous, car je vous avoue que cette aventure me paraît bien incompréhensible. » Pour la première fois, Vasilissa leva les yeux, et la comtesse y lut une expression si étrange et si nouvelle, qu'elle se souleva soudain et s'assit toute droite comme armée pour une lutte. « Le prince m'a demandé si cela me faisait de la peine de retourner à Pétersbourg. Qu'avez-vous répondu ? Que j'étais bien partout avec ma cousine, ma tante. Et puis il m'a demandé si je ne regrettais personne parmi les visiteurs. Alors ? J'ai répondu que je n'avais pas d'amis dans les environs et que ma cousine me suffisait. Ensuite, le prince m'a demandé si j'aimais beaucoup Zina et si je pourrais me résoudre à la quitter. J'ai répondu que je l'aimais. » Ici, Vasilissa se rappela fort à propos qu'elle devait aimer la comtesse, sa bienfaitrice, plus que tout au monde, et que je mourrais de chagrin s'il me fallait perdre sa société. Et alors le prince m'a dit que vous étiez occupée, ma tante, et qu'il ne voulait pas rester plus longtemps. Je lui ai proposé de prendre le thé, il m'a refusé et il est parti sur le champ. C'est tout. La jeune fille regarda sa tante avec cette même expression qui avait mis la comtesse sur la défensive, puis baissa les yeux et répondit tranquillement « Oui, ma tante ». La comtesse garda le silence. Certes, rien dans les réponses de sa nièce n'avait pu sembler déplacé au prince. Rien n'avait pu éteindre ou même amortir la passion dont il avait parlé le même soir à la bienfaitrice de Vasilissa. C'était donc le manque d'encouragement qui avait clos ses lèvres prêtes à parler. Mais si l'orpheline ne savait pas ce qu'on voulait d'elle, sa conduite avait été de tout point régulière et décente. Alors, c'est sa tante qui aurait eu tort de ne pas la prévenir? Cette idée horrible ne fit que traverser le cerveau de la comtesse, comme une chauve-souris qui passe devant une vitre à la tombée de la nuit, et son esprit, avec une dextérité sans égale, saisit le point faible de la déposition de Vasilissa. « Vous voyez, ma chère enfant, » dit la comtesse après un silence, « vous voyez ce qu'il en coûte d'avoir des idées romanesques et de les exprimer d'une façon déplacée. » Les lèvres de Lissa se serrèrent un peu, mais elle ne remua pas. Sans votre façon ridicule d'exprimer une amitié exagérée pour votre cousine, votre compagne d'enfance, vous eussiez pu atteindre un rang et une fortune inespérés. Mais l'enthousiasme hors de propos, l'absurde idée de mourir plutôt que de quitter votre cousine, ont refroidi à votre égard les bienveillantes dispositions de notre ami et voisin. Il se sera dit que, pour une jeune personne, vous parliez avec trop de feu d'une chose tout à fait ordinaire en soi, de l'affection qui lie deux jeunes filles élevées ensemble. Ce feu et cette exagération ne lui ont pas plu chez une demoiselle qu'il se proposait d'appeler à une position élevée, et c'est cette infraction aux convenances qui aura causé son silence. Nous devons ici reconnaître et adorer la main de Dieu, qui se sert souvent d'une cause frivole, en apparence, pour l'accomplissement de ses desseins. Et la comtesse, entièrement de bonne foi, adora dans son cœur la main céleste qui avait brisé ce mariage malencontreux. Lissa ne répondit rien. Un orage grondait dans son cœur. Il craignait de ne pouvoir mesurer la portée du premier mot qui sortirait de ses lèvres. Heureusement, la comtesse reprit la parole presque aussitôt. « Puisque l'heure est venue de vous parler mariage, mon enfant, je vais vous dire ce que toute mère doit dire à ses enfants en les présentant dans le monde. » Au mot de mère, la main sortit du manchon par habitude, mais l'orpheline, les yeux baissés, avait un air si absorbé que la comtesse rentra sa main après avoir lissé ses cheveux. « Le mariage, continua la comtesse, est un état naturel établi par Dieu depuis la création du monde. L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils ne feront plus qu'une seule chair, dit l'Écriture. Donc le mariage est l'acte le plus important de la vie d'une femme. C'est par là qu'elle acquiert le droit de sortir seule, de parler d'elle-même, de porter du velours et des diamants, quand sa fortune le lui permet, en un mot, de faire tout ce que les lois et les convenances autorisent et qui est défendu à une jeune fille. Mais elle contracte aussi des devoirs, et le premier de ses devoirs est d'aimer son mari et de lui obéir. La comtesse reprit haleine. « D'aimer son mari et de lui obéir, » répéta Lissa. « Oui, mon enfant, c'est là le premier de ses devoirs. Une femme qui contracte mariage jure par devant Dieu d'aimer son mari, de lui être fidèle et de lui obéir. C'est le serment le plus solennel, et on ne saurait le prononcer des lèvres seulement. Il faut qu'il parte du cœur et qu'il soit consacré par une fidélité de toute la vie. La comtesse prononça ces mots avec une conviction si profonde que Lisa sentit son cœur s'amollir et ses yeux prirent une expression moins fixe. N'oubliez donc jamais, mon enfant, que vous devez aimer votre mari plus que vous-même. Préférez son bonheur au vôtre, son plaisir au vôtre, ses amis au vôtre. Mon joug est un joug d'amour, a dit le Seigneur, dit Lisa d'un ton ferme. La comtesse la regarda, un peu étonnée. Il n'entrait pas dans ses idées que quelqu'un eût besoin d'affirmer ses convictions quand c'était elle qui parlait. Mais après tout, il n'y avait pas grand mal. Elle continua. Mais pour être heureux en ménage, il faut se marier dans sa condition. Et c'est pourquoi je reconnais le doigt de Dieu dans l'imprudence de vos paroles qui a éloigné de vous le prince Chourov. Vous êtes de famille noble, ma nièce. Votre père a servi avec honneur et il est mort des suites de ses blessures. Mais il n'était qu'un simple colonel, et votre mère n'est que de petite noblesse de province.
Mon père est mort pour son pays,
dit Vasilissa en levant la tête. Des larmes lui montèrent à la gorge. Elle fit un effort violent et les refoula. Ses yeux, redevenus secs, lui firent si mal qu'elle fut obligée de les abriter un instant de la main.
J'approuve vos sentiments, mon enfant, dit la comtesse avec douceur. Elle se pencha sur sa nièce et la baisa au front avec plus de tendresse qu'elle ne l'avait fait depuis longtemps.
Cette caresse fit déborder le cœur trop plein de la pauvre enfant, qui fondit en sanglots vite réprimés, car la comtesse détestait les épanchements inutiles. C'était elle seule, d'ailleurs, qui décidait s'ils étaient utiles ou non.
J'espère que le comte et moi nous avons remplacé votre père de notre mieux, et qu'au jour du jugement nous nous présenterons avec assurance devant notre Créateur pour lui rendre compte du talent qu'il nous avait confié, reprit la comtesse en faisant allusion à une parabole. Elle aimait à citer les textes sacrés.
Mais quel que fût le mérite de votre père, il n'en reste pas moins certain, mon enfant, que vous avez été élevé dans un monde bien supérieur à celui dans lequel vous pouvez espérer d'entrer par votre mariage.
Pourquoi, ma tante ?
Vasilissa mit dans ce mot toute la naïveté que le peu d'astuce qu'elle possédait put lui procurer. Parce que... La comtesse hésita, très embarrassée.
Pourquoi, en effet ?
Elle prit le parti de trancher la question. Parce que, dit-elle, vous n'avez pas de fortune, et que tout homme doit trouver dans sa femme l'équivalent de ce qu'il apporte, rang, titre ou fortune. Vous n'êtes pas de grande noblesse, vous n'avez rien, vous épouserez un homme de votre classe. Nous tâcherons cependant de le trouver un peu plus riche que vous. Je vous donne pour dot 10 000 roubles de capital, dont l'intérêt vous sera servi jusqu'à votre 21e année, plus un trousseau de 5 000 roubles, linge, effets, argenterie et meubles.
Vous ne me remerciez pas.
La comtesse dit ces mots avec un tel accent de hauteur que Vasilissa sentit l'insulte et non le bienfait.
« Je vous remercie, ma tante, » dit-elle d'un ton presque aussi hautain que celui de la comtesse.
Elle s'inclina sur la main gantée et se releva. La comtesse avait déposé un baiser sur le velours du bonnet fourré. Elle se sentait bravée et ne pouvait rien dire. Faute de mieux, elle continua.
« J'ouvre ma maison cet hiver. Le premier jeudi de décembre, je donnerai un bal et je vous présenterai comme jeune fille à marier. Vous serez mariée au printemps et l'hiver prochain, je m'occuperai de présenter Zina. »
« Il faut que je sois mariée auparavant ?» dit Vasilissa d'un air indifférent.
« Sans doute, » répondit sa tante avec humeur. Les gens que j'inviterai pour vous cet hiver, à quelques exceptions inévitables près, ne seront pas les mêmes que ceux qui peuvent prétendre à ma fille.
La coupe était trop pleine. Un instant, Vasilissa eut l'idée de se précipiter par cette portière qui lui envoyait au visage l'air glacé de l'hiver. Puis, une pensée d'attendrissement sur elle-même lui vint, et presque en même temps le souvenir de sa cousine.
« Zina pleurerait trop, » pensa-t-elle.
« Je vous remercie de vos bontés pour moi, ma tante, » dit-elle à la comtesse avec un grand effort, « et je tâcherai de les mériter. »
La comtesse, satisfaite, parla encore fort longtemps des devoirs d'une femme mariée envers la société. Sa nièce ne l'écoutait plus.
« C'est la mère de Zina, c'est ma bienfaitrice, » se disait-elle tout le temps pour se calmer.
Enfin, le relais arriva, et la comtesse, qui voulait se dédommager de sa nuit troublée par les coups de pied de son fils, renvoya la jeune fille. Comme on ne savait où caser le trop-plein de la berline, une idée vint à Zina. Elle renvoya sans façon une protégée en supplément dans une autre voiture et grimpa triomphalement avec sa cousine dans une calèche où, se trouvant seules, elles eurent le loisir de causer. « Pourvu que maman ne s'aperçoive de rien, » dit-elle, « mais j'espère qu'elle va dormir. Et puis si elle gronde, je dirai que c'est moi. » Pour cette fois, en effet, maman dormit et ne s'aperçut de rien. Chapitre 12e. Le repos de l'asile est troublé. Le voyage dura 5 jours, sans autre temps d'arrêt que les repas et quelques heures de repos pendant la nuit. Certes, il eût été bien plus simple d'aller chercher le chemin de fer à Moscou, et cela eût aussi coûté beaucoup moins cher. Mais la comtesse détestait les chemins de fer et n'avait jamais voulu s'en servir. « C'est si vulgaire, » disait-elle, « on se trouve là avec tout le monde. » Vainement lui alléguait-on la possibilité d'avoir un wagon à elle seule, de s'y faire apporter à manger, d'y avoir son lit. Le comte lui avait même offert de lui faire faire un wagon spécial qui ne servirait qu'à elle, 2 fois par an, pour l'aller et le retour à son domaine de Koumiassine. Elle avait refusé. « Ce serait encore la même locomotive, » disait-elle. « Et puis, est-ce que je pourrais empêcher ces gens du peuple de grouiller sur les plateformes ?»« Pour cela, » avait dit le comte en riant, « j'avoue. » Mais vous auriez la ressource d'un train spécial. On vous ferait chauffer une locomotive pour vous toute seule, qu'en dites-vous? Les rails sont à tout le monde, avait répondu la comtesse. La chaussée où elle roulait à 6 chevaux était bien à tout le monde aussi, mais du plus loin qu'il entendait les sonnettes de la longue file d'équipage, le marchand faisait ranger son tarantas et le paysan reculait son chariot jusque dans le fossé qui borde la route. Et les calèches, rapides comme le vent, passaient au milieu du chemin, couvrant de poussière ou de boue, selon la saison, le pauvre monde ébloui de tant de magnificence. Décidément, la comtesse n'avait pas la bosse des instincts démocratiques. Cette même femme, qui détestait le grouillement du peuple, hébergeait dans sa maison de Pétersbourg tout un hospice de pauvres femmes qui vivaient chez elle comme au pays de Cocagne et dont les mésaventures avaient parfois le don de la faire rire. Ce qu'elle n'aimait pas, c'était le peuple indépendant, pour lequel elle n'était rien, ce peuple qui ne la saluait pas, qui disait parfois avec colère et mépris « Tfou !» lorsque son valet de pied galonné, la précédant pour lui faire place, touchait l'épaule d'un paysan distrait ou récalcitrant. Ce peuple-là, elle le détestait et le méprisait, tandis que les paysans de ces villages, découverts et suppliants devant elle, la trouvaient toujours généreuse et charitable, prête à remettre une dette ou à faire une concession. Ce qu'elle voulait par-dessus tout, sans s'en douter le moins du monde, c'était d'être adorée humblement. Alors elle était capable de tous les sacrifices, de tous les renoncements. De même, tous les mercredis et vendredis de carême, et les carêmes sont longs en Russie, cette femme orgueilleuse et despote portait à l'insu de tous, excepté de sa femme de chambre, une chemise de grosse toile de chanvre non blanchie qui déchirait sa peau délicate accoutumée à la batiste. C'était pour mortifier sa chair. Elle jeûnait pendant les 3 derniers jours de la semaine sainte, sous prétexte qu'elle n'aimait pas le maigre, elle ne vivait que d'un petit morceau de pain et d'une tasse de thé toutes les 24 heures, et ces mortifications, elle les accomplissait bien par esprit de pénitence et de foi, car elle se gardait d'en parler. Mais là s'arrêtait son devoir religieux. La charité remplissait sa vie et sa maison, sa foi lui ordonnait de se mortifier comme une religieuse professe, de donner à l'Église des sommes immenses. Comme elle avait fait de ne jamais refuser l'aumône à qui que ce soit, et son cœur était dur comme la pierre, son orgueil n'avait pas d'égal, elle se faisait toujours inviter 2 fois par l'impératrice avant de se décider à lui faire visite. Sous prétexte de maladie, elle déclinait régulièrement le premier de ses honneurs pour mortifier son orgueil, disait-elle. En réalité, mais on l'eut bien surprise en le lui disant, c'était pour que la volonté souveraine ne passât qu'après la sienne. Telle était la femme avec laquelle Lisa entreprenait de lutter. Si elle l'eût connue, la pauvre enfant aurait demandé sans doute à prendre le voile plutôt que d'entamer cette lutte insensée. Mais elle ne se rendait pas compte de ce qu'elle faisait. Aussi le premier choc ne se fit-il pas attendre. Le principal souci de la comtesse en arrivant fut de réorganiser l'espèce d'asile de Sainte Périne qu'elle entretenait dans un pavillon détaché situé dans la cour de la maison, une protégée en laquelle la perspicacité avait reconnu des aptitudes spéciales pour la gestion des affaires, fut chargée de composer un règlement qui passa 3 jours sur le bureau de la comtesse. La gracieuse dame le lut et le relut au moins 3 fois dans le courant de chaque journée, corrigeant, ajoutant, retranchant, aggravant les sévérités louables de cette utile institution. Le règlement, dûment corrigé, approuvé, copié de la belle écriture officielle des scribes russes, fut encadré sous verre et suspendu dans la grande pièce affectée aux vieilles femmes. Malheureusement, il ne s'en trouva jamais une qui sut lire. Les hôtesses de cet asile, portait le règlement, ne pourront pas sortir avant 7 heures du matin, ni rentrer après 6 heures du soir. Tous les jours, elles feront la prière en commun et seront tenues d'assister à l'office divin. Les discussions et les querelles sont sévèrement prohibées et seront une cause de renvoi. Il est interdit aux personnes reçues dans l'asile d'apporter du dehors d'autres provisions que du thé et du pain blanc. Cependant, elles pourront faire cuire, pour leur usage, les aliments qui leur auraient été donnés par charité. Les esprits chagrins auraient pu remarquer dans cet article une légère contradiction. Mais quelle œuvre est sans défaut sur notre pauvre terre? Le soleil lui-même a des taches. Après une longue série d'autres articles interdisant les spiritueux, etc., etc., suivait un dernier paragraphe ainsi conçu. Pour quelque raison que ce soit, personne ne pourra résider plus de 8 jours de suite à l'asile, à moins d'une permission spéciale de Son Excellence Madame la Comtesse. Le petit Dimitri avait appris la pancarte par cœur, et de temps en temps, en répétant ses leçons à son précepteur, il intercalait une phrase du règlement au milieu de l'histoire grecque ou des verbes allemands. M. Wartel, qui avait bon caractère, se retenait à grand-peine de rire, et se contentait de réprimander son jeune élève. Mais cette trop grande indulgence faillit causer des malheurs. Le jour de sortie du précepteur allemand se trouvait précisément le premier dimanche qui suivit l'arrivée à Pétersbourg de la famille Koumiassine. Miss Junior, en sa qualité de première gouvernante, avait également droit au premier dimanche et n'eut garde de l'oublier. Mademoiselle Beauchet resta donc responsable des 2 jeunes filles et du petit comte. L'après-midi s'écoulait sans encombre. Les demoiselles lisaient des romans anglais dans leur chambre. Dimitri faisait des patiences sur la grande table d'études lorsqu'un bruit singulier s'éleva dans la cour. On eût dit le gloussement de plusieurs coqs d'Inde mêlés aux piailleries de quelques douzaines de poules. La comtesse était assise dans son boudoir près de là. Toutes les portes intérieures étaient ouvertes comme c'est l'usage en Russie. Elle leva la tête d'un air distrait. Le bruit cessa. La noble dame reprit sa lecture. Au bout d'une minute, les piailleries recommencèrent de plus belle. Lisa et Zina s'entre-regardèrent en riant. Dimitri, très affairé avec ses patiences, se mordait les lèvres dans l'excès de son attention. « Qu'est-ce que cela veut dire ? » murmura Mademoiselle Beauchet en déposant son livre. La sonnette de la comtesse fit alors un tel vacarme que le bruit extérieur en fut étouffé pour un moment. « Allez voir ce que c'est, » dit la comtesse d'une voix perçante, « et que je sache à l'instant ce que cela veut dire. »« Gagné !» s'écria joyeusement Dimitri, qui brouilla les cartes de sa patience, sauta sur le maroquin de la grande table de classe et la parcourut dans toute sa longueur en marchant sur les mains. « Veux-tu bien descendre ?» lui dit Zina, riant malgré elle. « Tu vas te faire gronder !» Dimitri retomba sur ses pieds et s'assit sur un grand fauteuil, les pieds et les bras ballants. Une expression de béatitude animait son visage enfantin et la malice triomphante lançait des feux d'artifice par ses yeux noirs. « Tu as fait quelques sottises ?» murmura Zina tout bas. Mademoiselle Beauchet regardait, inquiète, le jeune comte, qui se contenta de trépigner des pieds et des mains sur le fauteuil d'un air satisfait et qui reprit instantanément sa gravité. Le maître d'hôtel, consterné, se présenta à l'entrée du salon de la comtesse. C'était lui qui avait la haute main sur toute la bataille. Les piailleries avaient cessé. « Que signifie ce vacarme ? » dit la comtesse de sa voix de tête. « C'est inouï. Jamais depuis que le monde est monde, pareil scandale ne s'est vu. Eh bien ?»« Ce sont les vieilles femmes, à votre excellence, » commença-t-il. Je les ai bien entendus. Ce n'est pas la peine de me l'apprendre. Qu'est-ce qu'il y a ?
Votre Excellence, il s'est passé quelque chose de bien extraordinaire. Quand elles ont voulu faire du thé tout à l'heure...
C'est dimanche aujourd'hui, Votre Excellence.
Je le sais bien, après.
Eh bien, elles ont préparé le samovar et...
Parle donc ! Cria presque la comtesse, hors d'elle-même.
Ce n'est pas de l'eau, Votre Excellence, qui a coulé, c'est de l'encre.
Un fou rire prit les jeunes filles. Dimitri s'était laissé glisser à terre et se roulait sur le tapis, son mouchoir sur sa bouche pour étouffer son hilarité. Mademoiselle Bauchet elle-même, tout en jetant un regard de reproche sur Dimitri, ne put s'empêcher de faire comme les autres.
Qui est-ce qui a pu se permettre une farce aussi inconvenante ?
Dit la comtesse qui n'avait pas envie de rire.
Le coupable, quel qu'il soit, sera sévèrement puni.
L'œil du maître d'hôtel glissa par la porte ouverte sur Dimitri, que la comtesse ne pouvait voir et qui suivait en ce moment d'un air affairé les rosaces du tapis avec une grosse épingle.
« Mais cela ne m'explique pas ses cris, ses disputes, » continua la bienfaitrice des pauvres. « C'est que, Votre Excellence, quand elles sont venues chercher leurs sacs, ceux qui contiennent les aumônes, celle qui avait reçu du pain, a trouvé de la viande, celle qui avait des noix, a trouvé des pommes, alors elles se sont précipitées dans la cour en criant que c'était un tour du démon. Voilà la cause du bruit, Votre Excellence.
« Tu leur diras qu'elles sont un tas de vieilles sottes, » dit la dame irritée.
« J'entends, Votre Excellence, » répondit le maître d'hôtel en s'inclinant. « Celui qui s'est permis cette incongruité quittera sur le champ mon service, » ajouta la bienfaitrice des pauvres. « As-tu des soupçons ?»
Le maître d'hôtel entrevit une occasion superbe de se débarrasser d'un marmiton nouvellement reçu, et qui, peu au fait des usages de la maison, ne lui témoignait pas assez de déférence, à son idée du moins.
« Cela pourrait bien être Vassili. »«
Quel Vassili ? » demanda la comtesse.
« Il y a un Vassili parmi vous ?»«
Oui, Votre Excellence, un petit garçon qui lave les casseroles. Il est malpropre, méchant, malhonnête et capable de tous les tours. »«
C'est bien qu'on le renvoie, » dit la comtesse. « Allez, et que de semblables scènes ne se renouvellent plus. »
Les deux jeunes filles se regardèrent pleines de pitié. Le pauvre Vassili était un excellent petit garçon, un peu rustaud, mais serviable et doux. Dimitri était tout pâle.
« J'entends, madame la comtesse, » dit le maître d'hôtel, prêt à se retirer. Dimitri, d'un bond, franchit la porte et lui barra le passage. « Que voulez-vous ? »
dit la comtesse, étonnée et scandalisée de cette façon de se présenter.
Au lieu de répondre à sa mère,
« Pourquoi mens-tu ? » dit le petit garçon au maître d'hôtel, qui lui fit vivement deux ou trois clins d'œil significatifs.
« Tu sais très bien que c'est moi qui ai vidé ce matin mon encrier dans le samovar des vieilles sorcières et qui ai changé de sac leur au gâton. »«
Monsieur, un pareil langage, une action semblable !» s'écria la comtesse outrée.
Elle s'arrêta, ne trouvant pas de mots pour exprimer son indignation.
« Oui, ma mère, » dit le petit garçon, grandi par le mépris qu'il ressentait, étoisant le valet de toute la hauteur de sa naissance.
« C'est moi qui ai fait cela, et il le sait bien !» puisque je l'ai rencontré dans l'antichambre des vieilles. Fille, l'horreur, faire envoyer ce petit qui n'a rien fait, qui n'a qu'un défaut, c'est de parler de toi au singulier, au lieu de te mettre au pluriel, comme on met les gens nobles. Bel avantage. On y met les chiens aussi au pluriel là-bas, à la campagne, parce que ce sont des chiens de nobles. Tu es méchant, tiens.
Maman, dit-il en se tournant vers sa mère, punissez-moi.
Avec une grâce chevaleresque, touchante et comique à la fois, il s'approcha de la comtesse et mit un genou en terre.
« Sors, » dit la comtesse au maître d'hôtel, qui obéit.
Elle regarda son fils une seconde, puis lui tendit le dos de sa main. Elle brûlait d'envie de le serrer sur son cœur, mais c'eût été manqué au principe de toute sa vie.
Dimitri baisa tendrement la main de sa mère et rentra, la tête haute, dans la chambre des jeunes filles, où il fut étouffé de caresses par les trois femmes. Mademoiselle Bauchet avait les larmes aux yeux, et pendant 8 jours, elle l'appela Bayard.
C'est M. Wartel qui reçut une semonce pour avoir laissé à son élève le temps de faire cette équipée.
« Mais, madame la comtesse, dit-il, c'était un jour de sortie, je ne suis pas responsable.
Je vous demande pardon, monsieur. Il n'est pas redescendu depuis que vous l'avez confié à Mademoiselle Bauchet. C'est donc pendant qu'il était avec vous, dans la chambre du rez-de-chaussée, qu'il a pu trouver le moyen de s'échapper. » « Ce défaut de surveillance me paraît très grave, monsieur, très grave. » Une récidive vous ferait perdre ma confiance et le reste. Pensez-y, monsieur Bartle. »
Quel pédante, grommela le précepteur dès qu'il fut seul. Mais il se le tint pour dit.